Bonjour David Tertry, merci d'avoir accepté cette discussion autour de la Russie à la suite de la réédition de votre ouvrage Russie, le retour de la puissance. Alors, avant de rentrer dans ce vaste sujet qui est le sujet russe, est-ce que vous pourriez avant vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour, merci d'ailleurs d'abord pour l'invitation dans cette émission. Donc je suis maître de conférence à l'Institut catholique de Vendée depuis 2 ans. Et auparavant, j'ai été dans le réseau culturel du ministère des Affaires étrangères en Russie, à Saint-Pétersbourg plus particulièrement, et puis dans le Caucase.
Avant de rentrer dans le sujet, est-ce que vous avez senti, vu que vous travaillez au ministère des Affaires étrangères, une bonne intégration française au sein de ce pays?
Alors en Russie, c'était dans le cadre de ma mission, c'était déjà pas si simple puisque ma mission a commencé en 2014.
Ok.
Et donc juste après les premières sanctions.
Ouais.
La grosse différence entre 2014 et 2022, c'est que en 2014 et pendant tout le temps de ma mission, la politique de la France et du ministère était on applique les sanctions, toutes les sanctions, mais uniquement les sanctions.
Ok.
Et celles-ci ne touchaient pas le secteur culturel et universitaire. Donc on a continué à travailler pratiquement en dehors du contexte politique. Assez difficile, pratiquement comme c'était le cas avant 2014, alors qu'à partir de 2022, là par contre, il y a une coupure extrêmement forte et l'arrêt d'une grande partie des programmes.
Et le but, c'était quoi? C'était d'instaurer une espèce de soft power français au sein de ces grandes villes? De
Oui,
diffuser la culture française
C'est un objectif qui d'ailleurs, alors le soft power et puis la pensée universitaire française, les humanités françaises, c'est un objectif qui date du début des années 90, quand la Russie s'est ouverte. À l'époque, d'ailleurs, c'était autant une demande russe qu'une volonté française. Le personnage clé dans cette aventure sur le programme que j'ai dirigé à Saint-Pétersbourg, c'est Marek Alter. Puisqu'à l'époque, il avait établi une relation de confiance avec les autorités russes. Il a mis en place ses collèges universitaires français, ce qu'on appelle les collèges universitaires français à Moscou-Saint-Pétersbourg, qui étaient je dis étaient, parce qu'ils ont été fermés au moins provisoirement dans le cadre de cette crise.
À la suite de la crise ukrainienne?
À la suite de l'invasion russe de 2022.
Okay. Okay.
Hein, ils ont continué à fonctionner jusque-là. C'était justement de permettre à des professeurs français d'enseigner en Russie et de former des jeunes Russes, notamment dans les sciences humaines et sociales, qui avaient été, sinon sous-développées, du moins qui avaient eu un biais très fort dans leur développement au temps de l'URSS, du fait du marxisme-léninisme qui en fait étouffait un peu tout le reste de la recherche en humanité.
Alors, vous écrivez très vite dans votre ouvrage, le renouveau économique qu'a connu la Fédération de Russie au début des années 2000, dont on parlait, est largement lié à l'exploitation des richesses de son sous-sol et plus particulièrement à l'exportation des hydrocarbures. Juste une petite question, pourquoi cette exportation n'avait pas lieu avant les années 2000 sous Eltsine ou sous Gorbatchev?
En réalité, l'exportation des matières premières, elle avait déjà. C'est une constante depuis très longtemps. Sous l'Union soviétique, déjà, elle exportait des matières premières, et notamment du gaz. Ça a été un des points de coopération assez important entre l'URSS et l'Europe. Y compris l'Europe occidentale dès les années 70-80.
Mais il y a eu un vrai tournant avec Poutine, si je comprends bien.
Alors, en fait, le tournant, c'est pas forcément d'abord. Ça ne dépend pas forcément que de Vladimir Poutine, en réalité, ça. C'est-à-dire que dans les années 90, le problème pour la Russie, c'est non seulement. En fait, une espèce d'accumulation de problèmes qui sont liés à l'effondrement de la puissance soviétique. Bon, ça, c'est des processus plutôt longs et qui sont liés en fait au pourrissement du système communiste qui n'a pas réussi à se réformer, pour faire vite, et aussi à la conjoncture internationale, parce que dans les années 90, majoritairement, les prix des matières premières étaient bas. Et donc, non seulement la Russie était en crise, en reconstruction sur elle-même, mais les principales matières, enfin les principales exportations russes était exporté à des tarifs relativement bas. Et quand Poutine est arrivé, il a eu la chance que pratiquement de l'an 2000 à 2008, la crise financière internationale,
ouais.
vous avez une période de tarifs très élevés et qui permettent d'accumuler les réserves financières et voilà, de bénéficier de ces ressources.
Donc il a bénéficié d'une hausse des prix des hydrocarbures.
Voilà, dans ses deux premiers mandats, à peu près, il a eu la chance d'avoir une conjoncture internationale très favorable, un prix du pétrole qui tendanciellement en fait augmentait pratiquement sans arrêt et qui, associé à sa politique de stabilisation de la Russie en interne, a permis une première reconstruction de l'État russe.
Les deux entreprises qui ont su profiter de cette hausse, c'est deux entreprises qui étaient au début privatisées et qui sont devenues nationales, il me semble bien, Gazprom et Rosneft, donc Gazprom pour le gaz et Rosneft pour le pétrole. Comment ces deux entreprises ont réussi à faire profiter autant l'économie russe ?
Alors, Gazprom, en fait, c'est une entreprise d'État qui a été privatisée partiellement. Et le pouvoir a racheté une partie des parts pour retrouver sa majorité, pour que l'État retrouve la majorité dans cette entreprise. Donc il y a une reprise de contrôle d'une entreprise qui était semi-étatique et qui l'est toujours restée, sauf que pendant les années Eltsine, elle a plutôt été aux mains d'acteurs privés qui s'enrichissaient grâce à Gazprom. Et depuis début des années 2000, elle est plutôt reprise en main par l'État. Et puis Rosneft, c'était au départ une entreprise de pétrolière relativement petite, là aussi étatique, mais le Kremlin sous Poutine a permis à cette entreprise de racheter une grande partie de ses concurrents, parfois par des méthodes très musclées, puisque l'un de ses concurrents a été racheté à l'issue de l'emprisonnement de l'oligarque Khodorkovsky. Donc il y a eu aussi des oligarques qui ont fait les frais de cette politique.
Pas protectionniste, mais nationaliste et...
Voilà, on parle de sorte de nationalisme pétrolier qui d'ailleurs n'est pas spécifique à la Russie. D'autres pays, d'autres puissances exportatrices pétrolières ont mis en place des géants, parfois même avant. Il y a Aramco, par exemple, en Arabie Saoudite.
Qui est détenu par l'État ?
Voilà, est détenu par l'État saoudien. Et ça, voilà, ça date plutôt des années 60-70 dans le monde arabo-musulman. Là, c'est un peu différent parce que l'Union soviétique, par définition, détenait l'ensemble des moyens de production puisque c'était une économie étatisée. Ensuite, on a eu les privatisations en Russie massives des années 90. Et là, il y a une espèce de retour de balancier avec une reprise en main par l'État russe de ce secteur.
Ok, très bien. Et dans ce même chapitre, vous parlez notamment de Nord Stream 2, donc qui est en fait un gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne et qui a pour but de contourner l'Ukraine, qui est en fait un espèce de passage obligé pour la Russie, mais qui est du coup lui coûte cher. Et parfois, il y a eu des suspicions de fuite de gaz par l'Ukraine. Est-ce que, selon vous, parce que le 26 septembre 2022, il y a eu des gazoducs qui ont été touchés, ces mêmes gazoducs qui ont été touchés par des explosions, est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un sabotage de l'Ukraine ou de la Pologne qui était contre aussi ?
Alors, effectivement, il y a deux liaisons parallèles qui ont été construites par la Russie et des partenaires occidentaux, enfin européens, pour en fait permettre les exportations directes de la Russie vers l'Allemagne. Cette dernière, jusqu'à 2022, se plaçant comme une espèce de hub européen du gaz russe qu'elle redistribuait ensuite vers ses voisins. Donc il y avait vraiment une alliance énergétique entre la Russie et l'Allemagne. Okay. Et l'Allemagne en profitait pour bénéficier de prix du gaz.
Donc l'Allemagne était un intermédiaire pour l'Europe, comme l'Ukraine l'était avant.
En partie comme l'Ukraine l'était avant, sauf que la différence, c'est que l'Allemagne est le plus gros consommateur de gaz russe européen et payait le prix fort alors que les Ukrainiens n'en avaient pas les moyens. Et puis, il y a un enjeu géopolitique aussi. Il y a un enjeu vraiment économique. C'est de ne plus payer les droits de transit à l'Ukraine ou en tout cas d'en payer beaucoup moins. Un enjeu qui souvent peut rappeler. On pense que le Kremlin n'a réalisé ses infrastructures que dans une idée d'affaiblissement de l'Ukraine, etc. Mais ça passe, c'est pas la seule dimension. Il y a aussi des intérêts strictement économiques, en fait, d'accéder directement au plus gros marché et le
Oui.
plus lucratif d'Europe. Alors, sur la question du sabotage des gazoducs, donc il y a cette liaison de Nord Stream 1 qui fonctionnait depuis une dizaine d'années. Il y a le
Qui a
Nord
été mis en
Stream.
place en 2006, c'est ça, Nord
Oui,
Stream 1?
alors Nord Stream 1, dans les années 2000, a été construite et a permis une première alliance, enfin, la première alliance germano-russe, qui a été symbolisée aussi en la personne de Gerhard Schröder, puisqu'il était le chancelier qui a accepté le principe de cette alliance. Et ensuite, et ça a fait scandale d'ailleurs
En
en
Europe.
Allemagne. A pris la tête du consortium de ce Nord Stream. Donc, en fait, est devenu quasiment un salarié de Gazprom et jusqu'à présent, d'ailleurs, reste très proche de la Russie. Donc, c'est ce Nord Stream 1 et le Nord Stream 2 qui étaient construits en 2022, mais qui n'avaient pas encore été lancés. Donc, l'Allemagne et la Russie étaient en train de négocier avec l'Union européenne et les États-Unis qui étaient contre. Le lancement effectif de ce gazoduc, eh bien, ont été touchés par un attentat, un acte de sabotage de très grande ampleur, hein, puisqu'il est à la fois sous-marin, il touche une infrastructure
Donc vous
énergétique
confirmez que c'est un
majeure.
attentat?
Oui, mais ça, je crois que personne
Ouais, mais non, mais parce qu'il y
ne.
avait eu des doutes au début, comme quoi ça pouvait être quelque chose de un incident naturel entre
Ouais.
guillemets.
Non, là, je crois que j'ai jamais.
Oui,
Bah, depuis les
mais
tout
surtout qu'il y en
débuts.
a eu une à la suite de l'autre, il me semble. Il y en a eu une autre 4 jours après.
Non, alors, je crois qu'il y a un consensus sur le fait que c'est un sabotage. Maintenant, il n'y a pas de consensus sur le
Mais
fait de
non.
savoir qui
Ouais.
est derrière cela. Alors, ce qui était intéressant, c'est que en septembre 2022, on était quand même, je dirais pas au début, mais disons dans la phase la plus, à certains égards, émotionnelle, je dirais, de la guerre en Ukraine, hein, où il y avait vraiment, on observait, disons, une prise de distance quand même assez faible des commentateurs vis-à-vis de cette guerre. Et certains d'entre eux, en Europe, ont attribué l'explosion à la Russie elle-même, qui aurait fait exploser ses propres gazoducs. On ne sait pas trop exactement pour quel intérêt. Alors, il y avait des arguments, enfin, qui étaient quand même assez faibles, mais qui quand même était étonnant de voir que les médias occidentaux avaient relayé assez
L'info.
longtemps
Ouais.
cette information. Ensuite, on a dit oui, mais enfin, on n'a pas beaucoup de preuves quand même. Et puis, petit à petit, effectivement, comme vous le dites, a émergé la thèse d'un sabotage ukrainien, sachant que, et ça, c'est la der ça c'est, on a des fuites à la fois aux États-Unis, en Allemagne, voilà, des journaux qui ont fait des enquêtes et qui disent, voilà, on a l'impression, il y a quelques éléments qui pourraient laisser penser que, mais on n'a pas de thèse officielle, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui ont été menées par les États voisins, certaines officiellement n'ont pas abouti, et la seule qui reste, à ma connaissance, officiellement en cours, c'est une enquête allemande, mais là encore, où il y a très peu de communication. Alors moi, donc moi, je ne suis pas enquêteur, mais ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, il y a une sorte de consensus qui se fait sur l'idée que ça n'est pas la Russie qui a fait exploser ses propres gazoducs, bon, ce qui paraissait quand même assez étrange. Maintenant, on attribue à l'Ukraine. Bon, il faut savoir que c'est dans la Baltique. C'est une des mers les plus surveillées du monde et dans laquelle l'OTAN a les moyens de surveillance parmi les plus élevés au monde. C'est vraiment une d'abord stratégique. Il y a la Russie à côté. Voilà,
Ouais.
c'est donc il y a du commerce international très fort. Donc il est très très peu probable que l'OTAN ou les responsables de l'OTAN, des États-Unis, etc.,
N'est pas
n'aient
vu.
pas vu ce qui se
Ouais.
passait. Donc admettons,
Donc
c'est ma
elle aurait été
thèse.
complice, c'est ça
Bon,
que vous êtes en train de
voilà.
dire?
Ce que je suis en train de dire, c'est que même si c'est l'Ukraine, et il y a beaucoup d'experts qui ont des doutes sur les capacités logistiques
De
de
l'Ukraine à faire
l'Ukraine
ça?
à faire ça, sachant qu'il y a quand même un élément, c'est qu'il y a un gazoduc, même deux gazoducs qui ressemblent au Nord Stream qui passent par la mer Noire. Hein. Il y a le Blue Stream qui va entre la Russie, qui exporte le gaz de la Russie vers la Turquie
Oui.
directement, et puis il y a le Turkish Stream qui va aussi vers la Turquie, mais pour alimenter les Balkans. Deux gazoducs qui sont, alors là, voilà, qui sont dans une mer qui proche de l'Ukraine et qui n'ont pas été touchés. Donc ça pose l'idée que, admettons que les Ukrainiens étaient dans l'affaire, ils ne pouvaient pas le faire seuls. Et en tout cas, à minima, sans que l'OTAN ne le sache, et les États-Unis et une partie de l'OTAN.
Donc les États-Unis sont probablement derrière aussi.
Alors il y a un journaliste d'enquête américain qui a lui a affirmé que c'était vraiment les services américains. Bon, mais là encore, c'est des enquêtes journalistiques.
Oui, oui, dont on ne connaîtra jamais la fin.
Mais on n'a pas de version officielle. Et ce qui est vrai, ce qui met le doute aussi un petit peu, c'est que les responsables européens, dont les entreprises, les grandes entreprises, étaient parties prenantes de ce projet. C'est-à-dire qu'il y a les grandes entreprises françaises, d'ailleurs, Engie, les grandes entreprises allemandes de l'énergie, donc des géants énergétiques,
qui ont financé ce projet.
Qui ont financé ce projet. Donc, pour elles, c'est une perte énorme. Et il y a très, très peu de communication là-dessus. Alors que vous imaginez une perte comme ça dans une grande entreprise française dans un autre contexte, il est évident qu'il y aurait des enquêtes, des demandes de remboursement, etc., etc. Donc, là, il y a un gros doute sur cette affaire, effectivement.
Très bien. Mais juste, pourquoi on a compris que l'Ukraine était contre, n'était pas trop favorable à cause de des droits qu'elle touchait pour faire passer le gaz par son pays. Pourquoi les États-Unis étaient contre ?
Les États-Unis étaient contre pour trois raisons principales. La première, c'est que ces infrastructures, elles relient directement la Russie à l'Allemagne. Et donc, elles incarnaient un rapprochement, comme je l'ai dit tout à l'heure, très fort entre les deux pays. Et donc, ils avaient des intérêts communs très forts. Hein. Les Russes, en termes financiers, exporter leur gaz.
En quoi ce rapprochement était un problème pour les États-Unis ?
C'est un problème majeur parce que pour les États-Unis ont deux zones, deux régions d'influence majeure qui tiennent sur lesquelles ils tiennent à maintenir leur hégémonie, c'est l'Europe occidentale et l'Asie de l'Est, on va dire. Et en Europe occidentale, leur partenaire majeur, c'est l'Allemagne. Il est majeur parce que c'est la première économie d'Europe. Et il est majeur aussi parce que c'est aussi un pays qui abrite les principales bases américaines en Europe. Donc, pour eux, c'est absolument stratégique de continuer à contrôler l'Allemagne. Or, une Allemagne qui s'autonomise en se rapprochant de la Russie, c'est pas une bonne affaire. Donc, déjà, ils étaient contre du fait du rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. C'est le premier argument. Deuxième argument, c'était qu'ils voyaient bien que l'objectif du Kremlin, au passage, en même temps, c'était d'affaiblir l'Ukraine à la fois d'affaiblir l'Ukraine et de se défaire de la dépendance à l'Ukraine, hein, pour ne plus transiter par l'Ukraine, parce que la Russie, finalement, était dépendante du transit ukrainien. Pour les États-Unis, au contraire, il fallait tout ce qui pouvait renforcer l'Ukraine dans le bras de fer qui était en train de se mettre en place avec la Russie
était
bon pour les États-Unis. Et le troisième argument...
Pourquoi ? Parce qu'ils ont des bases militaires là-bas, c'est ça ?
Alors, ils n'ont pas de base militaire.
Non, mais ils ont des troupes.
En principe, ils ont pu avoir des conseils militaires. Non, ils n'ont pas de troupes, parce qu'autrement, on aurait une guerre américano-russe en Ukraine. Mais ça a été défini, en fait, par Brzezinski, hein, l'auteur du Grand Échiquier, hein, ancien conseiller du président Carter, mais qui avait une grande influence dans l'establishment américain. Il a défini dans son livre, hein, des années 90, le Grand Échiquier, l'Ukraine comme l'État... sans lequel la Russie cessait d'être un empire. Pour lui, si on arrivait à détacher l'Ukraine de la Russie, alors quand il parlait d'empire, en fait, il sous-entendait une grande puissance concurrente des États-Unis, en fait. Donc dès les années 90, en fait, dans l'establishment américain, il y a eu l'idée qu'il fallait empêcher que la Russie et l'Ukraine ne se rapprochent, parce que, bien, effectivement, l'Ukraine, c'est le deuxième État de l'ex-URSS après la Russie, et que Ukraine plus Russie ensemble, ça reforme une grande puissance voilà, qui peut menacer l'hégémonie des États-Unis. Okay. Donc ça, c'est le deuxième argument. Empêcher l'affaiblissement de l'Ukraine et maintenir cette dépendance russe vis-à-vis de l'Ukraine. Et puis le troisième argument, qui est devenu de plus en plus fort, et qui, par exemple, et qui est autant celui de Biden que de Trump, et encore plus de Trump d'une certaine façon, puisque lui, il a une vision plus, voilà, plus business en fait, des relations internationales, c'est que les États-Unis, avec le développement de l'extraction de gaz de schiste, se sont transformés en exportateurs de gaz. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 5-6 ans, les États-Unis consommaient plus de gaz qu'ils n'en produisaient. Donc, le fait que les Russes exportent leur gaz vers l'Allemagne, en dehors des problèmes géopolitiques, c'était moins leur problème que maintenant. Maintenant, c'est un problème parce que, enfin, depuis quelques années, c'est un problème parce que les Américains ambitionnent d'exporter leur propre gaz vers l'Europe. Et donc, et ce gaz, c'est du gaz de schiste, donc déjà d'extraction assez difficile. Ensuite, il faut le liquéfier, parce qu'évidemment, ils peuvent pas, il n'y a pas de gazoduc possible entre les États-Unis et l'Europe, et le transporter vers l'Europe. Donc, c'est un gaz qui est plus cher que le gaz russe, qui est transporté directement par gazoduc, qui est un gaz naturel.
Comment ils peuvent ambitionner alors de fournir l'Europe
Et bien voilà, et le résultat, c'est que tant que le gaz russe peut arriver à peu près librement en Europe,
ils pourront pas acheter le gaz.
Ils vont pas acheter, les Européens vont pas acheter de gaz américain ou simplement pour compléter dans certains temps. Voilà. Par contre, quand le gaz russe il ne parvient plus parce que il y a plus de gaz de Nord Stream et qu'il y a des sanctions et d'autres obstacles, eh bien les États-Unis sont capables d'exporter. Et c'est ce qui est arrivé en 2022 et 2023, surtout en 2023. Où l'Europe a acheté beaucoup de gaz américain à des prix extrêmement élevés, puisque les Européens n'avaient plus le choix, en fait, ou presque plus le choix.
Donc la guerre en Russie avantage les Américains sur le plan économique.
Sur le plan énergétique, ça c'est certain, et c'est admis de tous, même de ceux qui sont les plus favorables à l'Alliance occidentale. Hein, notre ministre de l'économie. Bruno Le Maire, alors c'était en 2023, je crois, un jour s'est exclamé en disant, mais quand même, les Américains nous vendent leur gaz 4 fois plus cher que sur le marché intérieur. Ouais. C'est-à-dire que gaz américain vendu sur leur marché intérieur est 4 fois moins cher que celui qu'ils nous vendent à nous. Et donc, évidemment, en termes concurrentiels, c'est une situation quand même difficile à admettre. Et d'autant plus difficile que d'un côté, les États-Unis disent à l'Europe mettez des sanctions, arrêtez d'acheter du gaz russe, mais ils n'offrent pas en échange de tarifs préférentiels. Ouais. Pas du tout, au contraire.
Donc on se fait doublement avoir, entre guillemets.
Voilà, on a une double. Voilà, et ça, c'est un énorme problème qui est plus grave pour l'Allemagne que pour nous, il faut le reconnaître. Pour la France...
Parce que l'Allemagne n'a plus de nucléaire, c'est ça ?
L'Allemagne n'a plus... quasiment plus de nucléaire, elle est en train de fermer son nucléaire. Et deux, c'est une puissance industrielle qui est très énergivore, notamment l'industrie chimique. Il y a beaucoup d'industries chimiques en Allemagne, nous, on en a un peu moins. Et trois, la France, donc elle, par contre, a son nucléaire.
Oui. Elle est moins dépendante de ce gaz.
Et elle s'approvisionne aussi en Algérie. Elle a un approvisionnement, même dans le secteur du gaz, qui est plus diversifié que l'Allemagne.
Cette réticence des États-Unis face à Nord Stream 2, elle a été... les États-Unis ont réussi à stopper ou à ralentir ce projet
Oui, les États-Unis avaient prononcé un grand nombre de sanctions contre Nord Stream 2 sous Trump. D'ailleurs, le chantier avait été arrêté, puis il avait repris, etc.
Il est en fonctionnement, Nord Stream 2 ?
Non, alors il n'est pas en fonctionnement, parce que déjà, il y a un des deux tubes, parce qu'à chaque fois, c'est deux tubes, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Mm. Donc, Nord Stream 1 a été détruit, enfin, en tout cas, donc il a été l'infrastructure a été coupée par cette explosion. Mm-hmm. Donc, elle ne peut pas fonctionner dans l'état actuel des choses. Il faudra une réparation et on n'est même pas certain.
Ah oui, donc ça marche bien le bombardement du gazoduc.
C'est une explosion.
L'explosion.
Et Nord Stream 2 a été touché sur l'un des deux tubes. Donc sur les 4 tubes qu'il y avait, il n'en reste plus qu'un qui n'ait pas été touché et qui pourrait fonctionner. Techniquement, il pourrait fonctionner. Mais l'Allemagne est sous la pression énorme des États-Unis pour leur dire, si vous, les faire fonctionner maintenant, ça voudrait dire que vous mettez en route, parce que celui-là n'avait pas été mis en route encore.
Okay. Hein,
je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça n'avait pas encore été mis en route au début de la guerre en Ukraine. Le faire fonctionner maintenant, ça voudrait dire que vous mettez en route un nouveau projet avec les Russes dans le domaine énergétique, alors qu'il y a la guerre en Ukraine. Politiquement, c'est difficile à faire admettre. Et donc, pour l'instant, les deux Nord Stream ne fonctionnent plus.
La Russie était déjà sanctionnée pendant l'annexion de la Crimée en 2014. Et puis, il y a eu, comme on en parlait, l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Malgré tout, il y a des prédictions du FMI qui sont sorties avec des chiffres de croissance de la part de la Russie qui sont assez élevés, qui font mieux que l'Europe et mieux que les États-Unis. Le rouble qui augmente, les exportations d'hydrocarbures qui ont été diversifiées, pas que à l'Europe, mais qui vont maintenant en Chine, en Turquie et en Inde. Qu'est-ce que vous pensez de ces prédictions? Est-ce qu'elles sont fondées sur les bonnes choses? Et est-ce que ça révèle que la Russie est bien un pays autonome qui a trouvé des alliés de circonstances, comme le disait Pascal Perry. Pascal Perry qui est un économiste sur LCI. Et qu'en fait, des sanctions à la Russie, ça n'avantage personne, sauf les États-Unis.
Alors, il y a plusieurs questions en une, ou une question dans plusieurs de vos questions. Donc, d'une part, au début de la crise, on s'en souvient, alors il y a la fameuse expression de Bruno Le Maire qui disait nous allons obtenir l'effondrement de l'économie russe et au tout début de la crise. Après,
il a dit ça. Okay.
Voilà. Donc Bruno Le Maire, et ça c'était à l'issue des toutes premières sanctions, pensant que ce premier train de sanctions serait déjà suffisant pour obtenir ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de... Alors, quand il a dit ça, évidemment, c'est un peu une parole malheureuse parce que maintenant,
c'est
souvent... finalement, ça n'avait pas été tout à fait le résultat. Ouais. Sachant qu'en fait, lui, il s'exprimait de manière peut-être un peu abrupte, un petit peu rapide, mais il ne faisait qu'exprimer finalement une forme de consensus. C'est-à-dire que la plupart des élites européennes et occidentales ont pensé que des bonnes sanctions bien dures, et effectivement c'est quand même des sanctions très très fortes qui ont été prises, allaient être suffisantes pour affaiblir très fortement la Russie. Et peut-être, je pense que dans l'idéal, il se disait ça va être suffisant pour l'empêcher de faire la guerre. C'est-à-dire que la Russie serait obligée de se retirer d'Ukraine parce qu'elle n'aurait plus les moyens, ni les composants, par exemple plus de composants électroniques pour fabriquer des armes, plus d'armes, plus de pétrodollars parce que la Russie ne peut plus exporter son pétrole vers l'Occident, plus de moyens financiers pour financer. Hein. Et donc, il y avait vraiment cette idée-là qui s'est révélée en bonne partie fausse, même s'il faut reconnaître que dans les premières semaines, après les premières sanctions, il y a eu des fortes turbulences, c'est-à-dire que le rouble a baissé très fortement. La banque centrale russe a dû prendre des mesures
assez drastiques.
Mais justement, d'une part, comment on peut expliquer? Alors, il y a eu ces fortes turbulences, mais finalement, la Russie a passé le premier choc. Et en 2023, elle a connu une croissance économique qui n'était prévue par personne, et même par les Russes eux-mêmes. Même les responsables russes n'avaient pas prévu cette croissance. Hein. Donc les derniers chiffres, ce serait 3,6% de croissance, qui efface totalement la récession 2022, qui est évaluée à 2,1%. Hein. Et qui fait effectivement mieux que les Occidentaux, mais aussi que la croissance mondiale même, que la moyenne de la croissance mondiale. C'est-à-dire que la Russie fait mieux que la moyenne de l'ensemble du monde en étant sous sanctions massives. Donc c'est un petit peu contre-intuitif. On se dit, comment se fait-il ? Et ce qui est assez... il y a une partie de rebond aussi, hein, puisqu'elle avait quand même baissé en 2022. Il y a un rebond. Et puis, il y a des dépenses militaires, etc. Bon, ça, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être expliqués. Mais tout de même, ça a surpris tout le monde. Et en 2024, on s'est dit là, par contre, maintenant, une fois que le rebond est acté, disons, la croissance va à nouveau baisser fortement parce que c'est difficile de continuer sur le moyen terme une forte croissance une fois qu'il y a un rebond qui a été réalisé et que les conditions, par ailleurs, sont quand même difficiles. Or, le FMI, là, il y a quelques jours, vient de rehausser ses prévisions de croissance pour la Russie en 2024 à 3,2%. Donc, une croissance encore à plus de 3%. C'est une forte croissance pour un pays comme la Russie. Nettement plus élevée qu'en Europe, à nouveau, et un peu plus élevée qu'aux États-Unis. Et donc, ça pose quand même beaucoup de questions. Et comment on peut expliquer rapidement quelques éléments d'explication? D'une part, la gestion de crise. Les autorités russes ont montré qu'elles étaient capables de réagir assez efficacement aux différentes sanctions. Donc vous avez évoqué par exemple la réorientation des flux pétroliers. Personne ne pensait que la Russie serait capable de réorienter aussi vite, parce que c'est quand même une énorme logistique. C'est pas simplement dire je change de client.
Pourquoi c'était pas fait avant ça? Pourquoi ils ont pas diversifié? Enfin, pourquoi c'était livré principalement à l'Europe et pas forcément à la Chine ou à l'Inde?
Alors, pour plusieurs raisons, les infrastructures. Donc, il y a des oléoducs qui datent de la période soviétique, qui relient la Russie à l'Europe. Donc, ils sont existants. L'infrastructure est déjà rentabilisée depuis longtemps.
Okay.
La proximité géographique qui va avec ces infrastructures, c'est-à-dire que le pétrole russe, historiquement, était plutôt la partie européenne de la Russie et donc exporté vers l'Europe et non vers l'Asie. Et puis aussi des raisons financières, et de logistique, mais aussi ce sont des canaux qui sont mis en place avec des firmes qui se connaissent, des contrats, etc. Ceci dit, attention, c'est pas un redéploiement qui part de zéro. Depuis des années, le pétrole russe était de plus en plus exporté vers l'Asie-Pacifique. Donc il y a une accélération énorme de la réorientation avec les sanctions.
Ouais.
Mais ça vient pas de nulle part.
Ouais. Okay. Ok, très bien. Et juste, est-ce que vous pensez que, parce que du coup l'Europe et les États-Unis ont mis des sanctions contre nous, comme on disait, est-ce que pour vous il s'agit un peu juste d'un message politique, parce que maintenant qu'on voit à quel point la Russie peut se réorienter et recréer son économie sans nous, est-ce que s'il s'agissait juste pas d'un message politique pour montrer qu'on était contre cette dictature de Poutine? Et est-ce que en fait ça s'est tout simplement pas se retourner contre nous?
Alors non, ça n'est pas seulement un message politique, en tout cas initialement. C'est certain que c'était vraiment l'idée de bloquer au maximum les capacités économiques et financières de la Russie, d'où par exemple le gel des avoirs de la Banque centrale, donc quand même 300 milliards de dollars de réserves russes qui sont bloquées en Occident, et d'autres sanctions qui sont véritablement qui visent pratiquement tous les pans de l'économie et du système financier russe. Donc ça n'est pas seulement un message politique. Ça l'aurait été s'il n'y avait que des sanctions, par exemple, sur les dirigeants russes, sur leur capacité à se déplacer en Occident, sur leurs avoirs en Occident, etc. Ça c'est l'aspect plus politique qui est aussi mis en œuvre. Il y a des sanctions très importantes. C'est d'autant moins politique à l'heure actuelle, mais plutôt géostratégique et économique, que d'une part, ça se poursuit, et d'autre part, les États-Unis sont loin pour l'instant d'avoir abandonné l'idée qu'ils finiraient, malgré tout, par resserrer les taux sur la Russie. Raison pour laquelle maintenant, ils sont passés une nouvelle phase, parce que la plupart des sanctions ont été prises maintenant, il n'y a plus grand chose à sanctionner en plus, c'est de tenter d'obliger les États non occidentaux à se conformer aux sanctions occidentales. Puisque les États non occidentaux, pour l'instant, très majoritairement, ont refusé de mettre des sanctions sur la Russie. Et donc, il y a beaucoup de voies de contournement de ces sanctions qui sont créées par ces États. Et on voit là ces derniers mois, ces dernières semaines, les responsables américains qui font le voyage à Pékin notamment.
Ils font du lobbying.
Et qui font le voyage notamment à Pékin pour dire à la Chine, il faut que aux banques chinoises, au gouvernement chinois, etc., il faut arrêter de commercer avec la Russie. Parce que vous financez ou vous aidez à l'effort de guerre russe. Maintenant, pour l'instant, ce qu'on peut observer, c'est que D'ailleurs, les États-Unis ont par exemple en décembre dernier étendu énormément l'interprétation de l'application de ces sanctions. Parce qu'il y a aussi, les sanctions c'est très complexe en fait, il y a la sanction en elle-même, puis il y a son application, l'ampleur de son application, est-ce qu'on oblige les autres à l'appliquer ou est-ce qu'on ne s'applique qu'à soi-même, etc. Hein, donc il y a aussi toute la thématique des sanctions secondaires, c'est-à-dire celles qu'on applique aussi aux autres États, ce qui normalement est contraire au droit international, mais est une pratique assez ancienne des États-Unis. Et donc les États-Unis, depuis décembre, ont mis en œuvre une interprétation de leurs sanctions extrêmement large. C'est-à-dire qu'en gros, toute personne qui commerce avec la Russie désormais peut avoir la crainte de tomber sur les sanctions. Et donc ça freine, y compris des banques en Chine ou en Turquie, dans des États qui jusque-là n'étaient pas très coopératifs avec les États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire sur cette question, dans le commerce avec la Russie. Donc il y a des obstacles, de nouveaux obstacles qui se créent. Mais ce qu'on a pu observer jusque-là, c'est deux choses. D'une part, c'est que la Russie, comme on l'a dit, parvenait à chaque nouvelle sanction. Alors, pas à toutes, hein, il y a certaines qui sont quand même bloquantes. Mais à contourner. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est que la Chine joue un jeu où elle dit « Non, mais moi, je ne suis pas partie prenante de ce conflit et je commerce avec mon voisin russe parce que c'est mon droit mon droit souverain, mais je ne participe pas à son effort de guerre. » Mais en même temps, elle-même se donne les moyens de continuer à entretenir une relation très étroite avec la Russie. Et ceci, a priori, c'est à peu près le consensus dans les experts occidentaux comme non occidentaux, c'est qu'en réalité, il y a eu un mauvais calcul des élites occidentales là-dessus,
une sous-estimation. Ouais.
En tout cas, il y a eu un problème, c'est que certains ont cru et continuent de croire que la Chine allait faire pression sur la Russie pour qu'elle se retire d'Ukraine.
Or, pourquoi elle aurait fait. Il n'y a aucune raison qu'elle oblige ça à la Russie, entre guillemets.
Alors, il y a une raison, et qui est encore mise en avant par les Occidentaux, c'est une raison commerciale. C'est que, je vais dire aux Chinois, vous voyez toutes ces sanctions-là, on commence à mettre des sanctions sur votre économie aussi, sur l'économie chinoise. Donc, les États-Unis. Depuis plusieurs années, mettent en œuvre des sanctions. Les Européens commencent à dire la Chine, ça devient. Donc, si vous voulez qu'on reprenne des relations apaisées, notamment au niveau commercial.
Copiez-nous.
Or, la Chine est une grande puissance commerciale, elle a besoin, elle, de commercer. Ouais. Eh bien, si vous voulez pas être touché par ce conflit, il faut que vous arrêtiez de soutenir la Russie. Donc ça, c'est l'argument occidental. Et je veux dire, ça va marcher parce que les Chinois vont avoir trop peur pour leur économie. Mais le contre-argument, il n'est pas commercial, il est géostratégique. C'est que la Chine se dit, si demain la Russie perd cette guerre, l'Occident va être renforcé très fortement.
Ouais.
Et dans la mesure où moi, j'ai un problème aussi à mes frontières qui s'appelle Taïwan, ça va donner ça va faire qu'en quelque sorte il va y avoir une espèce d'idée qu'il n'est pas possible de remettre en cause l'Occident, que ce soit en Europe ou en Asie, parce que c'est trop dangereux, et je vais me retrouver toute seule, parce que tant que la Russie reste une puissance qui fait face aux Occidentaux, eh bien la Chine se dit on est à deux contre l'Occident. Par contre, si la Russie perd la guerre, elle sera soit affaiblie, soit dans le pire des scénarios pour la Chine, une défaite importante de la Russie pourrait impliquer un changement de régime en Russie. Parce que, échec de cette aventure ukrainienne, changement de régime, un régime pro-occidental, parce qu'il va dire qu'il faut changer de politique, ça ne marche pas, et la Chine se retrouve toute seule. Et c'est le calcul principal des Chinois et du gouvernement chinois, c'est de dire, certes, il y a des sanctions, etc., mais on préfère quand même que la Russie au moins ne perde pas la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent une victoire totale de la Russie, mais au moins ne perde pas la guerre, parce qu'autrement, on risque de se retrouver tout seul et affaibli.
Parce que si la Russie perd la guerre, ils sont tout seuls face aux Occidentaux, face à la démocratie, entre guillemets. Et en quoi Taïwan joue un rôle clé là-dedans?
Bien, parce que, en fait, il y a des points communs et d'énormes différences entre l'Ukraine et Taïwan. L'énorme différence, c'est que l'Ukraine est reconnue comme un État indépendant, souverain, et que quand la Russie envoie des troupes en Ukraine, c'est une violation de sa souveraineté. Raison pour laquelle les Occidentaux aident massivement l'Ukraine. Alors, il y a d'autres raisons hein, stratégiques, c'est pas simplement ça, parce que si les Occidentaux soutenaient tous les États agressés par leurs voisins, il y aurait de quoi faire à l'échelle du globe. Donc il y a des raisons géostratégiques de concurrence de grandes puissances, et notamment avec les États-Unis, on l'a déjà évoqué, hein, notamment en Europe. Mais dans le cas de Taïwan, en principe l'inverse, c'est que Taïwan est reconnue comme une partie de la Chine. Sauf que il y a des nuances, parce que la Chine communiste, enfin la Chine continentale,
De Mao.
considère, voilà, considère que, et de Xi Jinping désormais, considère que c'est une partie intégrante et qui doit être rattachée à la Chine, hein, point c'est tout. Les Occidentaux, eux, disent oui, c'est une partie de la Chine, mais une partie autonome qui a son propre système, hein, démocratique, etc. Donc on la soutient parce qu'on considère que c'est peut-être la
C'est
Chine,
un peu
mais
comme Israël-Palestine, en
hein,
fait.
non, parce que Israël-Palestine, c'est deux peuples différents. Personne
Oui.
n'affirme qu'il y a un seul peuple. Que là, c'est les Occidentaux disent, voilà, c'est un même peuple, on peut reconnaître qu'il y a un même peuple. Et juridiquement, on a reconnu, ça remonte aux années 60-70, on a reconnu que qu'il n'y a qu'une Chine, il n'y en a pas deux. Mais il se trouve que là, il y a un système démocratique qui ne souhaite pas être annexé par la grande Chine continentale et communiste. Donc ça c'est les différences. Un État souverain d'un côté, une île qui a un statut pas très défini de l'autre, en fait, et qui est considérée comme une partie de la Chine officiellement. Mais ce qui ressemble dans les deux cas, c'est que vous avez deux grandes puissances, la Russie d'un côté et la Chine de l'autre, qui sont des concurrents stratégiques pour les États-Unis. Les États-Unis, depuis quelques années, dans toutes leurs documents programmatiques, disent: nous avons deux concurrents stratégiques à l'échelle mondiale, c'est la Russie et la Chine. Pas d'autres, il y en a deux, c'est ces deux-là. Et les États-Unis considèrent que, on l'a déjà dit, hein, que si la Russie, d'une manière ou d'une autre, retrouvait son influence en Ukraine, ça serait un renforcement trop important de la Russie. Et considère aussi que si la Chine prenait le contrôle de Taïwan, ce serait aussi pour la Chine un avantage majeur, déjà pour se projeter dans l'océan mondial, parce que ça l'ouvre vers les masses océaniques, alors que là, il est un peu bloqué en mer de Chine. Et puis de l'autre, par exemple, on sait que sur les semi-conducteurs, Taïwan est le principal producteur de semi-conducteurs mondial. Et donc, les États-Unis aident financièrement, surtout militairement, l'Ukraine contre l'invasion russe à l'heure actuelle, et arment Taïwan pour empêcher une éventuelle invasion chinoise de Taïwan.
Alors, j'aimerais juste, parce qu'en fait, il y a divers avis sur l'aide française en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, au lieu de fournir de l'aide à l'Ukraine, on devrait fournir de l'aide aux Français.
J'ai Charles, la
Américains
question
aussi.
des
En
avions,
vérité, les
les
chats.
Anglais hier qui ont dit pourquoi pas
Mais
à la
voilà,
demande
mais voilà.
d'avions de chasse
Oui,
qu'a formulé
je vous le fais
Volodymyr
pas dire.
Zelensky.
Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va-t-on aller? Je veux dire, il faut quand même voir que ça devient déraisonnable.
Vous leur répondez quoi, ces gens-là? Est-ce que vous avez un avis particulier? Est-ce que vous... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ces aides françaises à l'Ukraine?
Alors, moi, je vais partir du point de vue du chercheur qui regarde hein, cette situation et les débats, effectivement, qui ont lieu en France. Ce sont des débats qui, finalement, sont pas forcément très virulents. Ils le sont moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des débats extrêmement virulents et qui opposent en partie les deux grandes forces politiques américaines, que sont les républicains et les démocrates. Et en réalité, il y a une division au sein des républicains, mais il y a une majorité de républicains qui sont assez réticents désormais pour aider l'Ukraine, en disant: nous, on a nos problèmes, on a une dette abyssale, on a nos problèmes de migration, la frontière à contrôler au sud, etc. Investissons notre argent aux États-Unis et non pas dans le conflit ukrainien. Ça, c'est les arguments des Républicains. Les démocrates disent
ils ont quand même investi 60 milliards, je crois, il y a deux
jours. Voilà, là, ils viennent de voter, le Congrès vient de voter une aide de 60 milliards de dollars, mais ça, c'est une énième aide des États-Unis. Donc là, il y a un débat au sein même, disons, du Parlement américain, et qui est un débat assez dur, et qui a bloqué d'ailleurs cette aide pendant 6 mois. Pendant 6 mois, le Congrès américain n'est pas parvenu à voter cette aide qui était demandée par Biden, parce qu'il y a une réticence importante au sein même du Congrès.
Du Congrès.
En France, qu'est-ce qui se passe ? En France, c'est différent. Bon, déjà, en France, on a un Parlement qui est très affaibli, déjà un Parlement qui a un rôle moindre dans les institutions de la Ve République, et qui est très affaibli. À l'heure actuelle, c'est devenu presque une chambre d'enregistrement, plus qu'un Parlement qui définit d'ailleurs le gouvernement, un gouvernement qui est lui-même minoritaire au Parlement et qui gouverne quand même. Donc déjà, on est dans une situation où le Parlement a moins de poids dans la politique extérieure. En fait, c'est quand même très largement l'Élysée qui définit la politique extérieure du pays, sans vraiment rendre compte de ces décisions au Parlement.
Oui, il y a des députés qui disent qu'on devrait faire un référendum pour savoir s'il faut aider l'Ukraine ou pas, et que ce n'est pas assez mis au centre de la table.
Alors, moi je constate qu'il n'y a pas un débat très fort, et les principaux partis, et même ceux qui ont longtemps été accusés d'être proches de la Russie, notamment le Rassemblement National, finalement il y a une sorte de consensus mou sur l'idée que il faut aider l'Ukraine. Maintenant, donc, l'idée d'aider l'Ukraine, elle est contestée avant tout par des partis disons qui sont assez peu représentés ou pas représentés du tout au Parlement, notamment tout ce qu'on appelle les souverainistes. Maintenant, dans ce consensus mou, et ici il est mou, c'est que par contre à l'intérieur il y a quand même d'importantes nuances. Il y a ceux qui disent il faut l'aider financièrement pour qu'elle ait presque une sorte d'une aide humanitaire, enfin un peu élargie, pour faire face à cette situation dramatique de la guerre menée par la Russie en Ukraine, mais on doit trouver une solution diplomatique. Il faut pas, faut arrêter de continuer à alimenter la guerre. Okay. Donc il y a en gros, ça peut être par exemple à peu ou prou la position de l'EFI par exemple, qui va dire on soutient l'Ukraine certes, mais on faudrait trouver une solution, enfin il faudrait trouver une fin à une solution à ce conflit. Par contre, donc voilà, on peut avoir ce genre de position. Et puis il y a la question, au-delà de l'aide financière, de l'aide militaire et de l'implication potentiellement toujours plus grande de la France dans le conflit. Et
c'est là l'envoi des troupes.
Voilà, et c'est là que ça devient de plus en plus polémique, parce que on sait que le président Macron a évoqué l'éventualité d'envoyer des troupes, alors on ne sait pas trop si c'était un ballon d'essai ou pourquoi ça a été utilisé, mais ce qu'on sait, c'est que dans les sondages, les Français sont à peu près aux trois quarts des Français qui sont opposés à une telle perspective, Là, par contre, il y a la bonne partie de la classe politique a été très réticente à cette éventualité.
Mais est-ce que vous comprenez, parce qu'on comprend que les États-Unis bénéficient de cette guerre, entre guillemets, pour ne pas trop être... on comprend que la France en paye un peu les frais, on envoie des armes, on soutient l'Ukraine, et en plus on paye un pétrole plus cher. Est-ce que vous comprenez la stratégie française d'aider ce pays à part... pour défendre les valeurs démocratiques? Est-ce que pour vous, c'est la seule motivation française pour aider ce pays, ou il y en a d'autres derrière?
Alors, bon, effectivement, il y a plusieurs arguments qui sont avancés. Commençons par le dernier que vous évoquez, la question démocratique. Alors, effectivement, il y a ce qui est mis en avant, c'est-à-dire la lutte des démocraties contre les autoritarismes.
Oui.
C'est un argument qui est...
un peu l'argument de façade, j'ai l'impression.
C'est un argument qui est un argument comme un autre. Simplement, bon, on peut constater que parmi les principaux acheteurs d'armement de la France...
Et l'Ukraine.
Alors, à l'heure actuelle, bon, il y a l'Ukraine, mais bon, c'est, par ailleurs, ce n'est pas vraiment un acheteur, c'est plutôt un consommateur. Mais c'est plutôt l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ce sont les monarchies du Golfe. Mm-hmm. Ils ne sont pas particulièrement des démocraties, comme chacun sait. Okay. Donc, bon,
en relation
internationale, c'est un peu difficile d'affirmer qu'on se base sur cette question. Et par ailleurs, la démocratie ukrainienne, si tant est qu'elle reste une démocratie, a beaucoup de faiblesses. Et voilà, on est dans une situation où c'est quand même un régime qui est plus démocratique, en tout cas qui avant la guerre, on va le dire comme ça, qui avant la guerre était plus démocratique que son voisin russe, mais qui c'était pas déjà une démocratie particulièrement florissante.
Ouais.
Il y avait un autoritarisme grandissant, des médias interdits, des partis d'opposition interdits. Qui est sans doute un pays qui, s'il n'y avait pas eu cette guerre, serait un pays plus pluraliste que son voisin russe. Mais je ne pense pas que ce soit fondamentalement une guerre de démocratie contre l'autoritarisme, parce qu'autrement
il y a un intérêt plus profond.
L'Occident serait en guerre avec beaucoup de monde sur une base de régime politique. Par contre, il y a plusieurs aspects. Déjà, un, la Russie envahit son voisin. Donc, il y a bien une violation de la souveraineté ukrainienne, elle est indiscutable. Or, ce voisin, ce n'est pas n'importe lequel. Ce n'est pas un voisin qui est à l'autre bout de la planète. Mmh. C'est un voisin qui a une frontière commune avec l'Union européenne et l'OTAN. Donc, ça nous concerne d'un point de vue de nos alliances militaires. De ce point de vue-là, c'est plutôt dans cette optique-là qu'on peut comprendre la participation française. C'est-à-dire, nous sommes membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc, nous contribuons à aider l'Ukraine parce que c'est un voisin important de ces deux alliances et qu'elle est envahie par la Russie et que c'est donc considéré comme une menace.
Pourtant, maintenant, elle ne fait en aucun cas partie de ces deux alliances.
Exactement. Alors voilà, donc il y a effectivement ceux qui disent, mais certes, c'est un voisin, mais ça n'est qu'un voisin.
Oui.
L'Ukraine ne fait partie ni de l'OTAN ni de l'Union européenne. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dépense des sommes aussi importantes, parce que par contre on n'a jamais, enfin en tout cas depuis des décennies, jamais autant dépensé pour aider un État en fait
qui n'a jamais été notre allié véritablement,
qui n'est pas un allié officiel de l'Union européenne et de l'OTAN. Et là se pose la question, alors moi je le poserais comme ça, c'est que le problème c'est pour les autorités françaises, qu'est-ce qui prévaut. Est-ce que ce sont les intérêts de la France, en tant que France, un peu prise isolément ? Bon, la France, elle n'a pas de frontière avec l'Ukraine. Les voisins de la France n'ont pas de frontière avec l'Ukraine. Si vous regardez une carte, l'Allemagne, nos voisins à l'Est, l'Allemagne, oui, l'Autriche, n'ont pas de frontière avec l'Ukraine. Donc cette guerre, elle ne concerne ni... elle n'est pas à la frontière de la France, mais elle n'est même pas à la frontière de nos voisins. Donc elle est quand même très très loin, en réalité, de nos préoccupations immédiates en termes de sécurité. Donc on n'a pas de menace, nous, directe. Par ailleurs, il y a des problématiques. Alors ça, c'est l'aspect stratégique. L'aspect économique. L'une des promesses faites à l'Ukraine, dans le cadre de cette guerre, c'est de lui dire « Vous allez rentrer dans l'Union européenne. » Or, l'Ukraine, c'est un très grand exportateur de produits agricoles à des coûts très, très bas. La France est une grande puissance agricole. Si l'Ukraine rentrait demain dans l'Union européenne, l'agriculture française, qui n'est déjà pas en grande forme, on l'a vu avec les manifestations des agriculteurs,
se déliterait.
Se déliterait. Donc, c'est aussi pas forcément très favorable. Donc, en fait, si on prend la France seule, qu'on la détache du contexte occidental,
il n'y a aucune raison valable.
On n'a pas de raison très valable. Par contre, si on la remet dedans et qu'on dit on est dans un système de solidarité avec nos voisins et on construit l'Union européenne, etc., eh bien, on peut arguer qu'il faut venir en aide à une Ukraine qui est considérée comme une sorte de domino qu'il ne faudrait pas qu'il tombe.
Pourrait mettre en danger l'Union européenne, voilà, c'est ça.
La Pologne, vous avez des pays par contre de l'Union européenne qui sont frontaliers, les pays baltes qui craignent la Russie. Ils ont quelques raisons de la craindre, puisqu'ils ont quand même été annexés au cours de la Seconde Guerre mondiale par l'Union soviétique. Et donc voilà, vous voyez, il y a deux façons de voir les choses. Une façon de voir strictement nationale et une autre plus occidentale.
Très bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de l'Afrique, qui est un continent qui est assez prisé par le monde occidental, mais aussi la Russie et pas mal d'autres continents. Récemment, il y a eu pas mal de coups d'État, notamment au Niger, hein, qui est survenu au Niger. Et on a vu défiler dans la rue des Nigériens, avec des drapeaux russes et des drapeaux français en train de brûler, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la position russe au sein de ce continent et un peu l'ambition qu'elle y a ?
Alors, effectivement, la Russie, depuis quelques années, a marqué des points en Afrique, et notamment dans l'Afrique de l'Ouest et du Nord, dans la région, et aussi en République centrafricaine. C'est d'ailleurs en premier lieu en République centrafricaine qu'elle s'est implantée assez fortement. Donc, en gros, dans ce que la France a longtemps appelé son précaré. Donc, non seulement c'est l'Afrique, donc déjà un continent que la France a longtemps regardé comme une zone d'intérêt prioritaire, mais c'est pas n'importe quelle Afrique, c'est plutôt l'Afrique francophone et l'ancien empire colonial français dans laquelle
veut s'implanter la Russie.
Oui, et la France en fait a maintenu des bases militaires, un certain nombre d'intérêts. Donc c'est d'autant plus sensible pour la France. On évoquait les intérêts français par rapport à l'Ukraine, qui sont assez peu lisibles. Là, par contre, ils sont tout à fait concrets. Et d'ailleurs, certains font un peu le lien en disant, en quelque sorte, il y a une espèce de jeu entre la Russie et la France. La France soutient l'Ukraine contre la Russie. Et la Russie vient marcher sur les plates-bandes de la France en Afrique. Font un lien qui n'est pas forcément tout à fait évident, mais entre les deux situations géopolitiques. Donc la Russie marque des points dans cette zone. Alors maintenant, quels sont les éléments, disons, de contexte et d'explication ? D'un côté, d'abord, elle n'est pas la seule. Souvent, on met en avant la Russie parce que, d'une part, c'est souvent assez visible. C'est-à-dire qu'il y a les soldats russes qui débarquent comme conseillers militaires ou pour aider les armées des pays en question. Donc, ouais, forcément, voilà, des soldats qui participent parfois au combat contre des rebelles, c'est très visible. Deux, la Russie a mis en place une politique médiatique dans ces pays qui fait qu'elle est vue par certains manifestants, par partie de la société civile, dans la jeunesse notamment, comme le pays qui va les aider à remettre en cause la domination occidentale. Donc il y a des drapeaux russes que vous évoquiez. Ouais. Maintenant, elle est loin d'être la seule. En fait, on sait que la Chine est très active, mais qu'elle va plus être présente dans des projets économiques. Donc ça, c'est moins... ça va être peut-être moins mobilisateur. Et puis, on a la Turquie, par exemple, qui est très, très active. Donc déjà, la Russie, elle avance, mais elle n'est pas la seule à avancer. Ça, c'est le premier point, je pense qu'il faut dire. Et de l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la France est d'autant plus sensible à cette question ? Je l'évoquais précédemment parce qu'on a des bases militaires, on a des intérêts. C'était un peu la seule région dans laquelle on est resté une grande puissance, en fait, pour la France. Donc, c'est assez sensible. Ce qui se passe, c'est qu'il y a manifestement un ressentiment dans une partie de la population de ces pays vis-à-vis de la France. Ce ressentiment... Il est difficile de le mesurer. Est-ce qu'il est très grand ? Est-ce qu'il est minoritaire ? Mais il est là. Je pense que le nier serait une erreur. Et la Russie, elle s'engouffre là-dedans. C'est-à-dire que parfois, on lit des analyses qui sembleraient dire, finalement, c'est la Russie qui crée les problèmes. Mais oui, peut-être qu'elle en rajoute par sa présence. Mais initialement, ces problèmes-là, ils étaient là avant la Russie. Vous voyez, ils sont dans la relation entre la France et l'Afrique. Ce qu'on appelait par une époque la France-Afrique.
Ouais.
Et la Russie profite en fait d'un climat assez défavorable à la France pour s'implanter.
Et comment ça se fait que les Africains ils voient en l'Afrique un potentiel sauveur ?
Alors, d'abord, une partie d'entre eux. Oui. Et pourquoi la Russie ? Parce que sans doute, d'une part, le Kremlin a mis a réactivé un discours anticolonial. Qui était très fort sous l'Union soviétique. Or, l'Union soviétique en Afrique, elle est vue assez positivement, contrairement à peut-être d'autres régions du monde, notamment en Europe centrale, parce qu'elle a aidé les mouvements de dépendance nationale au moment de la décolonisation. Donc, les Africains, pour beaucoup, savent gré à l'Union soviétique et donc à la Russie, son héritière, de les avoir aidés dans le moment de la décolonisation. Donc déjà, il y a cet héritage. Et deux, maintenant que le Kremlin a réactivé un discours anti-occidental, il a aussi réactivé l'idée que l'Occident, en fait, n'aurait jamais abandonné ses velléités néocoloniales. Donc Vladimir Poutine dit, en fait, l'Occident, il est toujours néocolonial. Il veut continuer, en fait, à exploiter les autres États. Et nous sommes solidaires, en fait, vous et nous, dans cette lutte contre l'Occident néocolonial.
Très bien. Alors, pour conclure, j'aimerais juste vous poser une question, parce qu'en fait, en lisant votre livre, on a l'impression que la Russie a presque tout pour devenir une puissance mondiale et dominer en quelque sorte la scène internationale. Elles ont leur propre GAFAM, elles ont leur succès de soft power avec le jeu Tetris, l'application Telegram, le langage Kotlin, etc. Elles ont même leur clan, les BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et maintenant l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui leur manque fondamentalement pour faire en sorte qu'elles puissent imposer un peu leur vision du monde et qu'elles ne subissent pas l'Occident et, et l'Amérique.
Alors, effectivement, la Russie dispose d'un grand nombre d'atouts qui ont été très sous-estimés en Occident. Et ça, on l'a évoqué tout à l'heure, au travers des sanctions, en fait. Et elle est mal connue. Elle est mal connue des élites occidentales. Pour des raisons même très pratiques, les jeunes occidentaux, quand ils font leurs études dans leur jeunesse, ils vont aller soit en Europe dans le cadre d'Erasmus, soit aux États-Unis parce que c'est prestigieux, en Australie parce qu'on parle anglais, mais ils sont assez peu nombreux en Asie, peut-être aussi parce que c'est vu comme le pôle de croissance mondiale, du dynamisme, mais très peu vont aller voir en Russie. Parce que pendant longtemps, en plus, on nous a dit la Russie, c'est plutôt des problèmes, elle est en crise, etc. Et donc, c'est un pays qui est mal connu. Or, il a un grand nombre d'atouts. Maintenant, dans mon livre, je ne suis pas non plus dans l'idée que ces atouts sont si nombreux que ça, et surtout qu'ils sont capables de renverser, je dirais, les rapports de force. Dans mon livre, j'évoque aussi les faiblesses. Il y a les faiblesses démographiques, par exemple. La Russie est en crise démographique depuis 30 ans. Il y a la dépendance aux hydrocarbures. C'est bien les hydrocarbures pour faire entrer de l'argent, mais c'est aussi une dépendance à des matières premières. C'est pas non plus... on sait que les grandes puissances qui sont plus diversifiées, en principe, ont des degrés de développement technologique plus importants. Donc, il y a un certain nombre d'atouts, peut-être sous-estimés par les Occidentaux, mais il y a aussi des faiblesses. Maintenant, face aux États-Unis, il y a un grand territoire, il y a des ressources, il y a des technologies.
Oui, il y a ce qu'il faut, entre guillemets.
Il y a quand même ce qu'il faut. Qu'est-ce qui manque ? En fait, il manque déjà ce que la Russie a perdu avec l'URSS, c'est-à-dire une zone d'influence propre, parce que la zone d'influence russe, maintenant, elle est très restreinte. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette guerre aussi en Ukraine, parce que du point de vue du Kremlin, c'est en gros un des derniers bastions, c'est-à-dire une fois que si ses voisins passent dans le camp occidental, elle a plus de zone d'influence. Donc cette guerre, elle est aussi une sorte de guerre pour dire nous aussi on veut maintenir une forme de zone d'influence autour du territoire russe. Donc elle a perdu ses satellites que j'évoquais précédemment, alors que les États-Unis ont réussi. Et ça, c'est un des atouts majeurs.
À propager leur pouvoir un peu partout.
Voilà, ils ont réussi après 45. À consolider des alliances très très durables. L'OTAN, l'OTAN, c'est une alliance la plus durable de l'histoire pour l'instant. Ils sont toujours au Japon. Et donc, eux, ils ont des alliances très fortes qui continuent de dominer. Alors que la Russie, elle est obligée de s'allier avec un État qui est au moins aussi fort, voire plus dynamique que lui à l'heure actuelle, qui est la Chine. Et donc, c'est la raison pour laquelle. Elle n'est pas dans même le Kremlin actuel qui est décrit comme avec des velléités expansionnistes, qui s'avère être le cas en Ukraine, mais qui en gros s'arrêtent, qui sont pas forcément mondiales. Je l'évoquais, est plutôt dans l'idée d'un monde multipolaire, dans lequel la Russie joue un rôle majeur, mais pas dans l'idée de prendre la place des États-Unis parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le potentiel de prendre cette place.
Très bien. Et juste un dernier petit mot sur... On a l'impression qu'avec toutes ces sanctions, enfin, il y a eu les sanctions après l'annexion de la Crimée où la Russie était interdite du langage SWIFT, qui est le langage qui permet de faire des virements internationaux. Donc elle a créé le sien. Elle commence à créer ses GAFAM, elle commence à créer différentes zones d'exportation de ses hydrocarbures avec la Chine, etc. En gros, elle s'internationalise un peu plus. Est-ce que c'est pas à cause des sanctions que l'on met en place que la Russie va réussir à développer un peu sa propre son propre espace économique et donc à devenir encore plus puissante malgré nous?
Effectivement, ça peut être une hypothèse dans la mesure où la Russie finalement est un État qui dispose à peu près de toutes les richesses possibles.
Et on a l'impression qu'elle les accumule de plus en plus au fur et à mesure qu'on est contre elle.
Et ces sanctions, elles l'obligent un peu à développer ses propres solutions.
Ouais, à être autonome.
Donc il y a une forme d'autonomie qui n'est pas sans rappeler l'URSS, hein, où l'URSS finalement elle avait développé ses avions, ses technologies. Mmh. La plupart des technologies occidentales avaient leur équivalent en Union soviétique. Et puis elle trouve ce qu'on a évoqué en Afrique, mais plus largement à l'échelle mondiale, des alliés ou en tout cas des États qui sont mécontents de l'hégémonie occidentale. Donc elle a un grand nombre d'États à l'échelle mondiale qui se sentent assez proches de certaines thèses de la Russie, peut-être pas de toutes, peut-être même pas forcément de la guerre en Ukraine, hein, en termes de soutien, mais de dire par contre... remettre en cause l'hégémonie occidentale, ça nous intéresse. Donc il y a un potentiel, dépend aussi de la façon dont l'Occident va se comporter. Si l'Occident s'adapte et dit « bon d'accord, on doit aussi prendre en compte les souhaits des autres États d'un meilleur partage de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale », eh bien il va peut-être avoir un rééquilibrage. Le risque pour l'Occident, je dirais à l'heure actuelle, face à la Russie et à la Chine, parce que la Chine est aussi très active, c'est de se refermer sur lui-même, ouais. et finalement de dire « vous avez tous tort, nous sommes des démocraties occidentales, ouais. nous avons toujours raison en quelque sorte ». Et donc,
et là, ça, c'est un risque. Et de n'avoir plus qu'un allié qui est les États-Unis.
Et donc, oui, voilà, de se recroqueviller sur l'Europe, les États-Unis et puis quelques alliés d'Asie de l'Est, et de se retrouver un peu seul parce qu'en plus, les grands équilibres démographiques et même économiques ne nous sont pas favorables.
Super. Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Merci.